Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charlie.
Je le savais. On vit dans un système totalitaire, c'est la tyrannie des GAFA.
Des GAFA quoi?
Hein? Oui, alors ça va être compliqué pour toi Alex, mais je vais tout recommencer.
Ok, j'écoute bien, concentré.
Alors, on reçoit Bruno Patino, qui est spécialiste des médias.
Ouais, jusque-là ça va.
Alors, ancien directeur de France Culture, directeur éditorial d'Arte.
Oh, c'est bon, j'ai lâché France Culture.
Il a bossé à Télérama, au Monde.
Bah, tu m'étonnes qu'il a bonne presse son livre.
Ouais. Et si ça se trouve, un jour il va diriger Radio France.
Oh là là, BBC France, tu veux dire,
ouais,
peut-être.
Alors bon, le livre, il s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui parle du capitalisme de l'attention.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il compare le temps d'attention d'un humain, qui est de 9 secondes, à celui d'un poisson rouge de 8 secondes. Vous m'écoutez là-haut?
Non,
c'est encore un coup des géants du web. Ça.
On n'est pas des poissons rouges, ok?
Oui, pour la peine, vous faites 3 fois le tour du bocal, vous revenez.
Ok, on y va.
Mais c'est une image, enfin.
Oui, mais tu l'as dit.
Vous êtes complètement contaminé.
Contaminé par quoi?
Mais par le pouvoir des réseaux sur le net. On s'en fout du contenu. Il n'y a pas d'hiérarchie. Ce qui compte, c'est de faire tourner.
Comme le moins, quoi. Ouais, ça.
Si tu veux, ouais. Puis nous, on est des drogués hypnotisés par l'écran. Voilà.
Moi j'avais une autre vanne par rapport à tournée tournante.
Non,
parce que j'ai vu pendant une soirée d'hypnotisation là sur le web des trucs.
Non, bah toujours pas non.
OK.
Bonjour la France Inter. Vous écoutez la start-up publique, cet open espace où malgré d'excellents résultats, l'actualité doit lancer un grand plan de départ volontaire de la blague afin de répondre aux nouveaux défis d'un secteur en pleine mutation, bien sûr. Et voici les 3 informations qui partiront en retraite anticipée à 18h. C'est flippant, ah ben habituez-vous.
Oui, je sais.
Nos vieux ont tant de choses à raconter, mais ils vivent seuls. Alors à qui transmettre le récit de leur vie? À une intelligence artificielle capable de la transcrire et de nous l'offrir pour alimenter la mémoire collective, et pour certains, il y a urgence.
Je te rappelle quand même de ton nom.
Il ne se rappelle de rien, il ne sait même pas qui est Michel Drucker.
Nous connaissons tous les pièges de Facebook, mais on se croit tous à l'abri de ses effets délétères. C'est pourquoi on se plaint des dangers des réseaux, mais qu'on reste connecté. Alors, d'où vient ce déni? Mais quel déni?
Vous savez que je suis en pleine dépression depuis 6 mois.
Mais vous avez quelqu'un à qui en parler?
Non, pas spécialement. Enfin, j'ai 70 amis sur Facebook.
Un Français sur 3 utilise son smartphone à table. Une étude statistique montre qu'il s'invite autant au déjeuner chez mamie que lors d'un dîner en amoureux. Si vous dînez en amoureux avec mamie, évidemment, ça fausse les statistiques.
Ici, quand on mange, c'est à table et en famille. Et tu obéis.
Voilà, lui, voilà. Il devrait se sentir concerné par ce sujet. À propos du smartphone uniquement.
Oui,
c'est Alex Vizorek.
Votre mamie vous embrasse. Autour de la table, une très belle équipe.
Il a touché à ma mamie.
Elle m'avait demandé de ne pas vous en parler. Moins de testostérone qu'hier. Aujourd'hui, une belle équipe malgré tout à 17h20. Déjà parce que nous avons la Candy des Hauts-de-France avec nous, celle qui a l'air si mignonne mais qui ne raconte que des horreurs. C'est Constance, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la course à pied. C'est passionnant, ça va vous trouer le cul.
Voilà, à 17h30, l'inamovible journaliste de terrain. Celui qui n'écoute que son courage quand il s'agit de traiter l'actu primordiale. Celui qui, par son investissement, fait l'honneur d'une profession. Vous êtes allé où, Guy Maurice?
Championnat du monde de l'œuf maillot aujourd'hui, Alex, j'ai pas envie de rigoler du tout. C'était hier soir, donc plein de candidats qui étaient là. Pourquoi?
Arriver à améliorer le process et le produit.
Voilà, le process de l'œuf maillot, donc on va voir ça tout à l'heure.
C'était bien avec
c'est tendu.
Et enfin 17h40, celle qui, quand on lui parle de Porto, ne pense pas immédiatement à la deuxième ville du Portugal, alors qu'Évian est avant tout une commune de Haute-Savoie. Bonjour Juliette Arnoux.
Bonjour Alex Vizorek.
De quoi on va parler?
Je vais pas vous dire, mais ça va être comme Constance, ça va vous trouver le...
Ah bah dis donc.
Voilà, et c'est le moment d'accueillir celui qui va élever le niveau de l'open space.
Ça va aller, ça
Alors, la seule puissance intellectuelle sympa et très dure, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Bruno Patino.
Oh oui, c'est pas vrai. Hashtag soulagement.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek...
Par Jupiter.
Bienvenue Bruno Patino.
Merci.
Vous avez donc été directeur éditorial à Télérama, au Monde Interactif, vous avez dirigé France Culture, les programmes de France Télévisions, et surtout vous avez été l'un des premiers à vous intéresser au numérique dans le domaine de l'information, à avoir mis les mains dans le cambouis, ce qu'on appelait les pure players. Vous êtes le nez dedans depuis 20 ans. On peut dire ça?
Oui, le nez dedans. Oui.
Voilà. Alors, et vous publiez un essai qui est un peu le fruit de ces 20 années d'études et de pratiques. Un essai qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention ». Que je dirais aussi, c'est un grand traité de défense intellectuelle, comme on aime avec notamment Guillaume et Alex. Publié chez Grasset, vous parlez de notre attention, notre capacité de concentration, qui est mise en danger par les réseaux, parce qu'elle est devenue un enjeu, une sorte de nouvel or, une sorte de pétrole du capitalisme. Vous m'arrêtez si je dis une connerie. Hein. L'attention est devenue un marché, et un marché ultra concurrentiel.
Faites court, parce que les gens sont très attentifs.
Très bien.
Maintenant, je suis vigilant, maintenant que j'ai lu le bouquin.
Alors, on se souvient tous de la phrase...
L'audience ne se mesure pas seconde par seconde à la radio, contrairement à la télé.
On se souvient tous de la phrase du patron de TF1 qui disait « l'espace de cerveau disponible ». Il disait qu'il diffusait du divertissement pour qu'on soit réceptif devant la publicité pour Coca-Cola. Le marché de l'attention, qui est prisé par Facebook, bon, Instagram c'est Facebook maintenant, Twitter, etc., Internet, est-ce que c'est l'espace de cerveau disponible, mais à la dimension numérique, et donc le nouveau pétrole ?
Ben, en tout cas, c'est un espace... Les médias captaient un espace d'attention qui était limité parce que limité par l'outil, on n'avait pas le téléviseur avec nous tout le temps, et limité, on va dire, par la capacité de le faire, parce qu'il s'adressait à une multitude de personnes en même temps. Donc forcément, c'était pas forcément très bien visé ou c'était un peu approximatif. Le smartphone, on l'a avec nous tout le temps. Donc il essaye de capter notre attention à tout moment, même quand on dort, quand on déjeune en couple ou avec mamie, pour Alex Vizorek. Et par ailleurs, ils le font très précisément, puisque grâce à nos données individuelles, plus on leur donne de notre attention, plus ils sont capables de capter au mieux notre attention individuelle, puisqu'ils savent des choses sur nos émotions, sur nos goûts, sur nos comportements.
Ils nous sollicitent, c'est là la différence avec la télévision
tout
où on
temps,
avait encore
le... Tout le temps, en fait, moi le premier d'ailleurs.
Ouais. On va y venir, ouais, coquinou.
Personne ne m'a appelé comme ça, mais c'est très bien. On peut commencer.
Là,
c'est vrai. Vous citez une universitaire américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff et qui compare le capitalisme industriel qui essore les matières premières, notre planète, la nature, et ce capitalisme de l'attention, mais qui essore quoi alors ? Nous essore nous ?
Elle est un peu extrémiste, c'est-à-dire qu'elle parle de capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire que la matière première que ça extrait, si vous voulez, c'est nos données personnelles, mais surtout notre temps d'attention. Et donc, au bout d'un certain temps, si vous voulez, toutes les données qui sont collectées sur nous donnent des outils, alors moi je dirais de traçabilité, encore une fois, pour être au mieux, au plus près de nos émotions, de la répétition de nos émotions, c'est ça le problème surtout, c'est qu'on ça nous enferme dans une répétition des émotions qu'on a déjà eues, et elle dit, ça va même jusqu'à la surveillance absolue.
Vous paraphrasez, vous dites « Nous sommes devenus les mines à ciel ouvert que forent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons. »
J'ai dit ça, moi, mais ouais. Je pense que c'est le cas, oui.
Alors ensuite, la timeline...
C'est une phrase de coquinou, ça.
La timeline sur Twitter ou Facebook, on trouve de tout. C'est-à-dire, la timeline, c'est quand on ouvre, par exemple, Twitter et qu'on voit toutes les informations qui se succèdent. C'est pareil, le fonctionnement de Facebook. On a une photo de chat qui fait un bond. On a une photo de mamie, exactement. Ou susciter l'émotion mamie qui est décédée. Et tout le monde donne ses condoléances.
Like.
Non, mais c'est vrai, il y a le côté émotion, il y a le côté rire, il y a le côté info avec parfois des scoops, etc. Tout se mélange. C'est un des leviers, ça, le côté aléatoire des choses. On ne sait pas ce qu'on va trouver.
Oui, le levier, c'est la machine à sous, en fait, souvent. C'est-à-dire que les gens qui sont addicts ou accros aux machines à sous, au bout d'un certain temps, ils jouent pour jouer, non pas pour gagner. Et bien, ce mécanisme qu'on appelle de récompense aléatoire, c'est-à-dire de temps en temps, ça nous satisfait, de temps en temps, ça ne nous satisfait pas, c'est exactement ce qui est provoqué pour faire en sorte qu'on regarde compulsivement certaines de ces applications, même quand on n'en ressent pas le besoin. Je vais parler de quelque chose que Guillaume Meurice connaît bien, Tinder par exemple. Tinder par exemple, ça fonctionne exactement comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est pas fait pour provoquer la rencontre immédiate et tout de suite, mais pour vous faire, comme on dit, swiper, c'est-à-dire passer d'un profil à un autre le plus longtemps possible, donc de temps en temps avec des gens qui correspondront à vos goûts, de temps en temps pas, et au bout d'un certain temps, vous finissez par être accro au mécanisme de swiper, même quand vous en ressentez pas forcément le besoin immédiat.
C'est ça, il a raison.
Il existe le réflexe pavlovien, il existe un réflexe pour ça, pour la chose aléatoire.
Oui, c'est le réflexe qu'on appelle de boîte de Skinner, c'est-à-dire d'une souris qu'on avait mis dans une boîte avec un distributeur de nourriture, et ce distributeur de nourriture de temps en temps donner de la nourriture, de temps en temps n'en donner pas, et ce qui faisait que la souris appuyait compulsivement sur ce bouton distributeur, même quand elle avait quand elle était rassasiée et qu'elle avait beaucoup de nourriture à sa disposition.
Donc hashtag je suis une souris, c'est valable pour
ou
tout le
poisson,
monde.
Ou un poisson,
oui c'est vrai. Bruno Patino, la civilisation du poisson rouge, donc paru chez Grasset, où vous expliquez aussi très bien le projet initial des libertariens américains, l'idée de partage absolu des connaissances, etc., qui a ensuite été happé, digéré par le capitalisme. On suit bien tout le cheminement dans cet essai que on a trouvé fort passionnant avec Juliette Arnaud également.
London's Berlin, London's Berlin.
Et pendant que Donald Trump est en visite à Londres, God Save the Punk sur France Inter.
All across the town, all across the night, everybody's driving with four headlights. Black or white, you're turning on your face, a new religion. Everybody's sitting round watching television. London's burned,
we're falling now.
London's burned down,
na 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 na.
London's burning,
we're falling now.
London's burning down,
na 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 na.
I'm up and down a west side, in and out the light. What a great traffic system, it's so bright. I can't think of a better way to spend the night than speeding around underneath the yellow light.
London's burning, pendant que Trump est en train d'y foutre le feu avec la Queen Elizabeth. Les Clash, bien sûr, alors qu'on a Bruno Patino qui écrit toujours dans Rolling Stone.
Ouais.
Et qui publie La civilisation.
Mais sur des vieux hippies, hein, pas tellement sur des punks.
La civilisation du poisson rouge, paru chez Grasset. Alex Vizorek pour entourer Bruno Patino.
Eh bien, dans notre bocal, nous avons du Constance, nous avons du Juliette Arnaud et du Guillaume Meurice.
Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose.
Le journal de presque 17h17.
Pensez printemps, mes amis.
Et on commence par les titres.
Jean Leonetti, spécialiste de la fin de vie, remplace Laurent Wauquiez chez les Républicains.
Pas besoin de vannes.
Pour le député LR Claude Goasguen, Nicolas Sarkozy doit avoir un rôle majeur dans le renouveau de la droite.
Quand je vous le dis, pas besoin de vannes.
Et des brèves.
Oui, là je vais faire moi-même, parce que là je délègue à personne.
J'aurais dit pas besoin de bref.
Ça, c'est Éric Ciotti qui l'a dit. Ouais.
Commençons par une info de service public.
Oui, après un bug du site des impôts, la date de déclaration des revenus a été repoussée de 48 heures.
48 heures, hein, pas 48 ans. Je précise au cas où Isabelle et Patrick Balkany nous écoutent.
Passons à la vraie politique. Oui. Pour Christian Estrosi, l'échec de Laurent Wauquiez, c'est de s'être trompé d'adversaire.
Non. L'échec de Laurent Wauquiez, c'est d'être Laurent Wauquiez.
Tout simplement. Oui. Marion Maréchal Le Pen souhaite une grande coalition entre le Rassemblement National et la droite populaire.
Et ça existe déjà. Et ça s'appelle le cerveau d'Éric Ciotti.
Au RN, justement, oui. Il est dans la place Gilbert Collard.
Gilbert Collard, suite à son altercation avec Daniel Cohn-Bendit, Sonia Mabrouk sur Europe 1, lui demandait si ça allait un peu mieux.
Il a été grossier. Le premier, je lui ai répondu. Je regrette rien. Non, pas du tout. Non, du reste, j'ai envie de le provoquer en duel au pavé de mai 68.
Voilà, ça va beaucoup mieux,
beaucoup mieux
pour Gilbert Collard.
En Normandie, en pleine messe, un curé se met à chanter avec des gilets jaunes dans l'église.
Emmanuel Macron, oh, t'es de con.
Eh oui.
On vient te chercher chez toi.
Bon, Voilà, c'est un passage de l'évangile selon saint Gilles les Jaunes.
Vous croyez ?
Oui, et ouais, il n'est pas possible que le curé ait un peu forcé sur le sang du Christ aussi.
International à présent, beaucoup moins drôle. Aux États-Unis, une fusillade a fait 12 morts dans une administration en Virginie. Le tireur est un collègue des victimes. Il venait de présenter sa démission.
Il y avait petit message au GIGN. Surveillons Laurent Wauquiez. On ne sait jamais.
États-Unis toujours. Boeing a annoncé un défaut sur les ailes des 737, dont des 737 MAX.
Oui, franchement, Boeing, ils finissent tellement souvent au sol, à un moment, ils feraient peut-être mieux de fabriquer directement des voitures.
En Italie, à présent, l'Etna se réveille. Première éruption de l'année pour le volcan italien.
Ouais, d'ailleurs, vous savez ce que dit un volcan quand il commence son one-man show ? Il dit « Est-ce que vous êtes là ?»
Non. Non, non, Alex.
Oui, mais c'est parce que par rapport à Copy Comic, au moins, je sais que personne va me la piquer celle-là. Donc, comme ça, on
justement, Jean-Marie Billard annonce la fin de sa carrière d'humoriste solo.
Quelle salope !
Mais Alex !
Non, c'est un hommage, Charlie.
Ah, Jean-Marie hommage, très bien. Allez, musique.
Bilal Hassani nous a fait une Johnny Hallyday.
Ça va, Roubaix ?
Ça va, Roubaix ! Il était à Dunkerque. Pas de chance.
Allez, des brèves.
Des Français sont devenus vice-champions du monde de walking foot. C'est un football qui se fait uniquement en marchant. Et donc là, je pense qu'on tient une discipline dans laquelle Adil Rami serait sur le terrain.
Et la dernière,
une centaine d'automobilistes belges écopent de 116 euros d'amende pour avoir photographié un accident.
Ils ont photographié une demi-finale de Coupe du Monde, c'est ça ?
Eh oh !
Oui, ça va bien.
Ah pardon, excusez-moi.
Et c'est moi les brèves.
Hein. Ouais, d'accord.
Non. 116 euros de payer une photo d'un accident. En France, à l'époque de Lady Di, on payait les gens très cher pour faire ça.
Bruno Patineau, rangez-moi ce smartphone, car vous publiez la civilisation du poisson rouge.
Il n'a pas lu le bouquin.
Il n'écoutait pas les brèves.
On va y venir, mais il est déjà 17h25.
Il l'a quitté.
Je peux y aller ?
Oui, pardon.
17h25 à Chamaran de Choigne, en Haute-Marne, où ce soir à 18h30, Nicolas Stoufflet enregistre le jeu des 1000 euros. Demain, il sera à Levernois, en Côte d'Or. On l'embrasse. On s'apprête à commémorer le 8 juin et à écouter le récit des derniers vétérans. Mais qui peut récolter celui de nos aînés qui vivent seuls et sont de plus en plus nombreux ? Alors, pour nous transmettre leur mémoire, ils peuvent la livrer à l'intelligence artificielle qui se chargera de la transcrire. Les biographies des seniors seront ainsi archivées et la mémoire sauve.
Comment ça va, mon Jackie ?
Bonjour, monsieur. Alors, je peux avoir mon apéro, Jacqueline, s'il te plaît ?
Lorette, Jackie. Oh. Et c'est ton quatrième de la journée.
Oui, on lui dira.
Qu'est-ce qui lui arrive à Jackie ?
J'ai l'impression qu'il perd la mémoire. Surtout pour l'apéro.
Il oublie son apéro ? Oh, bordel.
Non, il oublie qu'il l'a déjà pris. Il s'imagine qu'il en est toujours au premier.
Mylène de Mongeau, Claude Brasseur et Franck Dubos dans Camping 3 de Fabien Antoniente. Car nous avons des références culturelles, Bruno Patineau, qui travaille sur Arte, on le rappelle.
Il passe pas souvent sur Arte, d'ailleurs.
C'est vrai. Alors, une entreprise suédoise développe une application afin de recueillir la mémoire de nos aînés via une intelligence artificielle. Alors, d'abord, évacuons cette question, car cette application fonctionne sur des enceintes connectées Google Home. Mmh. Trois petits points. Ça va nous poser un problème qui ramène à votre ouvrage, Bruno Patineau, non ?
Non, mais en fait, c'est toujours ce qu'il y a d'étonnant dans le numérique. C'est qu'au premier abord, et souvent d'ailleurs, ça propose une solution pour mettre en rapport des gens dans un univers qui... Parce que collecter la mémoire des anciens, ça se faisait par écrit, ça se faisait de façon humaine, ça se fait par intelligence artificielle, c'est formidable, mais derrière, il y a forcément un modèle économique. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment ça se passe ? Quelles sont les données que vous récoltez ? C'est toutes ces questions-là. Donc, en fin de compte, c'est le même schéma qu'avec en ce moment les cimetières virtuels ou Facebook qui se pose la question du maintien de votre compte après votre décès pour que telle une chapelle ardente ça continue à exister. Donc c'est un univers qui moi à la fois me fascine. Hein, je suis pas passéiste à ce niveau-là. Je trouve que c'est très intéressant,
mais rien n'est sacré en fait pour ce capitalisme de l'attention. Parce que, comme vous dites, il y a des formes de mausolées sur Facebook où on garde les profils des gens qui ont disparu. Oui, il y aura bientôt plus de gens disparus sur Facebook que vivants.
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être une immense mémoire virtuelle. Mais tout ça est la mémoire. Le problème, en fait, pour remettre au cœur des choses, c'est le biais économique que certaines applications ont. C'est-à-dire que imaginons un Facebook de service public, soyons juste au bout, c'est-à-dire qui, mais si, c'est-à-dire un réseau social qui vivrait, j'allais dire, sans dépendre du temps d'attention que ça vous capte, il n'aurait pas du tout le même profil qu'aujourd'hui. Il serait moins intrusif dans vos vies. Les algorithmes, on en fait faire ce qu'on veut, en fait. C'est des formules mathématiques, donc on peut aussi bien leur demander de capter le plus d'attention possible que demander de nous faire découvrir des choses ou au contraire de nous rendre des services très simples. Ce qu'il y a d'un peu de fascinant dans l'enceinte connectée, c'est le fait que ça devienne, ça dit quelque chose de notre solitude. Il y avait une enquête qui est parue comme ça il y a un peu un an sur les enfants qui ont grandi avec une enceinte connectée à la maison. Quand ils dessinent, vous savez, ils font le premier dessin des individus qui composent le foyer, donc ils mettent les parents quand les deux parents sont là, les frères et sœurs, l'animal de compagnie s'il est là, et Alexa si elle est là. L'enceinte connectée d'Amazon et qui on donne un prénom.
C'est tout à fait aberrant, un réseau social de service public, parce qu'on a la chance en France d'avoir une formidable radio de service public, très complémentaire avec une formidable télé de service public.
Bientôt terminé. Hein,
bah... mais donc, ici, c'est un média comme un autre sur lequel le public passe beaucoup de temps. Est-ce que c'est aberrant d'imaginer ça ?
En tout cas, c'est pas aberrant qu'à un moment donné, les services publics s'intéressent à l'ergonomie des algorithmes. C'est-à-dire, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, la mise en contact des uns avec les autres, la mise en contact de nous avec de l'information, du divertissement, de la conversation, cette mise en contact-là, la technologie n'est jamais neutre. Elle est portée de temps en temps par un modèle économique, de temps en temps par un autre. Et ce qui n'est pas aberrant pour moi, c'est que le service public s'intéresse effectivement à un moment donné à l'ergonomie des algorithmes pour justement promouvoir à un moment donné des mécanismes qui ne soient pas des mécanismes de prédation d'attention. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle. Le numérique peut apporter plein de solutions. 80% du numérique n'est pas fondé sur la captation de notre attention, mais on passe 80% de notre temps numérique sur les applications qui nous prennent de l'attention. Donc c'est juste ça. Donc moi, je ne pense pas que ça soit aberrant, mais ça veut dire que le service public doit s'intéresser à la technologie. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et pour conclure
mais pas
sur ce...
uniquement par à la technologie.
Pour conclure sur ce sujet de la mémoire collective, vous pouvez faire comme moi, vous planquer le smartphone enregistreur en parlant avec mamie de la guerre, de la libération, etc. Et puis comme ça, on garde une trace et puis c'est sans Google. Bon, il y a le smartphone, mais... elle nous écoute, mais elle n'entend pas bien. Si le son n'est pas monté, elle ne le saura pas.
Avant, il y avait le
Bruno Patineau, en notre compagnie, qui publie La civilisation du poisson rouge chez Grasset, petit traité sur le marché de l'attention. À 17h30 sur France Inter, il y a, ça devait être Constance, mais
il y a eu du changement.
Oui,
il y a eu du changement pendant le disque.
Salutations par Jupiter. Salutations au soleil. Salutations à la lune. Salutations au terreau de chez Gamver. Aujourd'hui, mardi 4 juin, si j'interroge l'univers ou si je regarde sur Google, je vois que c'est la journée mondiale de la course à pied. La course à pied. Non, non, non. Stop au marathon. Pour une fois, nous allons prendre notre temps. Réunissons le physique et le mental. Et quand je parle de mental, je ne parle pas du fromage. Ah, l'humour est une des clés du bonheur. Ouvrons-lui la porte. Nous allons ralentir. Vous êtes d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite, à part la queue à la poste. Et par conséquent, nous nous perdons. Alors s'il vous plaît, allons chercher au fond de nous-mêmes ce petit enfant terrorisé, oublié au rayon charcuterie du Super-U, un soir d'automne, et tendons-lui la main. Parlons-lui, disons-lui, viens petit enfant, je t'emmène au rayon des légumineux s'il y fait moins froid. Soyez lent quelques minutes. Prenez exemple sur le chat. Faute d'avoir sa souplesse pour se lécher le cul, pourrions-nous nous aussi de temps en temps nous prélasser ? Ah oui ! Prélassons-nous. Prélassons-nous. Savourons ce précieux répit à l'abri du vilain quotidien. Disons quelques minutes stop au « Pouette, pouette, bouge ta caisse, connasse !» ou « Maman, je veux pas mettre ces chaussures-là parce qu'elles sont rouges et moi je veux mettre les bleus. Je veux mettre les bleus. Je veux mettre les bleus !» Non. Il nous faut ralentir et profiter de chaque moment. Quand je dis profiter, je ne parle pas d'avoir une grosse voiture ou une grande piscine et des putes à bifler à volonté. Non, non. Je parle de reconnecter notre corps. Par exemple, arrêtons de cacher nos pieds en les enfermant dans les petits sacs appelés chaussettes. Libérons-nous, peut-on. Louons nos ploutes ventaires, nos voûtes plantaires. Ah, dyslexie. merci. Louons nos voûtes plantaires qui nous font voyager et nous portent toute la journée. Grâce à nos voûtes, nous nous déplaçons gratuitement et sans polluer. C'est merveilleux. Allez, tout le monde s'extasie sur ces voûtes. Waouh ! Oh ! Redécouvrez le pouvoir de notre corps. Dressez vos majeurs bien droits de chaque côté de vos mains. Pliez vos autres doigts et répétez « Va te faire foutre, problème. Va te faire foutre, problème. Mange tes morts avec du ketchup, contrariété. » Et cerise sur le gâteau, pour atteindre le nirvana, je vous invite à faire pipi dans la nature. Un petit bisou dans les bois, savourez cette magique petite brise qui vous caresse la lune et contemplez le ciel. Arrêtez de courir et laissez la joie vous fourrer comme un petit gâteau. N'oubliez jamais que le bonheur est une question de point de vue. Si le moustique est malheureux de voir l'humain essayer de l'écraser avec ses mains, alors il sera plus heureux de se dire que l'humain l'admire et l'applaudit. Salutations.
Constance, ah, merci. Oui, ça fait beaucoup de bien. Merci Constance, qu'on peut revoir bien sûr sur franceinter.fr. Et oui. Mélissa Lavaux, je pense qu'elle a un message pour les GAFAM, parce qu'elle chante Totalito.
Ça dénonce.
Ouais, ouais. Complètement, oui. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Écoutez par Jupiter, si vous nous rejoignez, vous faites bien. De toute façon, le match Federer-Wawrinka est arrêté pour cause d'orage.
Ah bah bravo.
Déferle à Paris.
Hidalgo d'émission.
Exactement. Il est 17h36, nous sommes en compagnie de Bruno Patino, qui est directeur éditorial à Arte, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
C'est quoi, numéro 2 en fait à Arte?
Bon, je ne suis pas un numéro quelconque, numéro, mais directeur éditorial.
Ah, c'est ça, voilà. On se renseigne, on ne sait pas très bien.
Vous me direz.
Vous êtes doyen de l'école de journalisme de Sciences Po, c'est-à-dire que vous dirigez l'école. Il fait tout, il est incroyable. La civilisation du poisson rouge est parue chez Grasset. Juliette Arnaud va nous en reparler tout à l'heure. En attendant, alors attention, Bruno Patino qui a commencé comme journaliste, a commencé comme correspondant au Monde au Chili, c'est ça hein.
Vous allez prendre du
Monde, pardon, au Chili. Vous allez prendre une claque.
Oui, peut-être une petite leçon là, Bruno, pour vous. Alors, on va commencer par la base. Il n'y a plus de français à Roland-Garros. Voilà, ça c'est la phrase qu'on entend le plus sur France Télé. Bruno, c'est l'équivalent sur Arte de « Et maintenant, un concerto austro-hongrois pour corps de chasse en lutte majeure non sous-titré ». Donc voilà, plus de français à Roland-Garros. Mais, il y avait des français à la grande finale du championnat du monde de l'œuf maillot. Et oui, c'est ça aussi le génie français. Quand on est nul quasi partout, on crée des disciplines. Voilà, les Belges font pareil avec les frites qu'on peut assaisonner avec du seum. Hein, parfois, petit conseil que je donne.
Je sais parce que je suis spécialiste de ça. J'avais fait le championnat de France de sushi il y a quelques temps, le championnat de France des écaillés, celui du pâté en croûte. Donc je suis un petit peu le journaliste sportif gastronomique de cette antenne. Je suis le Jacques Vendroux du tube digestif. Je voulais faire d'ailleurs le concours de la plus grande nouille, mais il n'y a pas de suspense, c'est Édouard Philippe tous les ans. Donc allons-y pour le championnat du monde de l'œuf maillot. Il avait lieu à la très chic brasserie Galopin. Tout ça est très sérieux, hein, ça j'insiste là-dessus. Le président du jury n'était autre que François-Régis Gaudry, hein, qui est notre responsable cholestérol à nous. Et en cuisine, parmi les candidats, le stress était palpable.
Il y a eu un peu de stress, il y a eu beaucoup d'engagement, mais on a su rester fair play. On a pu noter quelques petits tirages de maillots.
Alors, voilà. Alors, alors je vais aborder la question tout de suite. Il y a un jumelage possible avec le championnat du monde de jeu de mots. Voilà, donc tirage de maillot, on y est. Hein, on va s'épiler le maillot. Voilà, où est Régis Maillot? Vous pouvez y aller. Voilà, donc les fans de Frédéric Fromet se régalent. D'ailleurs, il y a une association qui organise, ça s'appelle l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf maillot. Voilà, et c'est vrai. Hein. Et le slogan est véridique aussi, le temps passe, les œufs durs. Voilà, on en est là. Donc l'ambiance est tendue, mais quand même on sait se détendre. J'insiste sur le fait que c'est sérieux, il y avait une huissier de justice pour qu'il n'y ait pas de triche, maître Véronique Bourrel.
Je vérifie que le jury ne connaisse pas le nom des candidats qui jugent.
Comment on se sent quand on est huissier de justice et qu'on a fait des études de droit et qu'on se retrouve dans un championnat du monde d'œuf maillot? Est-ce que c'est une consécration?
Ah oui, c'est très sympa, ça change de l'ordinaire.
Voilà, virer des gens de leur maison, etc.
Oui, on appelle ça une expulsion.
Voilà, entre deux expulsions, un petit concours d'œuf maillot, c'est vrai que ça détend. Entre deux saisies de meubles, hop, un championnat de sauce gribiche et on est bien, bravo madame. Alors d'ailleurs, en parlant de dames, tous les chefs étaient des hommes. Dans le jury d'une douzaine de personnes, seulement deux femmes. Alors je suis désolé de plomber l'ambiance, mais posons la question qui fâche à Vincent Ferniaud, membre du jury et chroniqueur sur France Télé.
Pourquoi aussi peu de femmes dans le milieu de l'œuf maillot?
J'ai l'impression que la mayonnaise fait peur. La mayonnaise fait peur à la jante. On peut dire que globalement, les hommes ont moins peur du gras que les femmes.
Les femmes ont peur de la maillot, quoi, on peut dire.
Un petit peu, oui.
Je pense que c'est ça, effectivement. J'ai tout lu, Simone de Beauvoir. Il n'y a rien sur la maillot, hein, clairement. On sent qu'elle veut en parler, c'est là, c'est sous-jacent, mais elle n'ose pas. Pourtant, l'œuf maillot devrait être un plat accessible à tous, quoi, démocratique. J'ai demandé au champion du monde de l'année dernière, hein, qui faisait partie du jury aussi, Cédric Dutilleul, par exemple, combien ça coûte un bon œuf maillot?
Je sais pas, mais j'espère que celui du championnat du monde, il sera assez cher pour qu'il puisse gagner sa vie avec.
Il est à combien le vôtre?
9,80.
9,80 l'œuf maillot.
Quand il est champion du monde, hein.
Oui, c'est vrai que c'est l'œuf maillot du championnat du monde.
Ouais. Le prix s'oublie, la qualité reste, comme disait. Ouais, bon, puis je suis dans un bistrot qui s'appelle le Griffonnier à deux pas de l'Elysée, donc bon, quand
même. Oui, c'est à côté de l'Elysée, donc il peut se permettre, ça ruisselle énormément. Donc 9,80 l'œuf maillot, ça nous met le jambon beurre à 25 euros, quand même. Hein, pour le saucisse purée, bah, tu prends un crédit, c'est TLM, et puis c'est tout. Hein, faut quand même pas déconner. Ça se mérite aussi, un œuf maillot, les gauchias. D'ailleurs, l'œuf maillot est-il plutôt de gauche ou de droite?
Il y a eu des œufs maillot de gauche. Ce soir, on a goûté des œufs maillot de gauche. Et certains qui étaient franchement de droite, franchement.
Et alors, c'est lesquels les meilleurs?
À mon avis, le gagnant, il fait une espèce de synthèse entre la tradition et le progressisme.
En même temps.
Ouais, c'est vraiment l'œuf maillot macroniste, quoi.
Bah, l'œuf maillot est assez libéral.
Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Dominique Seco écrit ses chroniques avec un œuf maillot. Ça ne m'étonne pas du tout. Il y a de l'émulsion chez Domi. Tout comme chez le président de l'association de sauvegarde des œufs maillot, hein, Sébastien Mayol, il s'appelle. Ça ne s'invente pas. Il cherche un petit peu quand même. Ah, c'est comme si le président ou la présidente de sauvegarde des quiches s'appelait Chiapal. Bref, l'œuf maillot est en danger, d'où l'association. Pourquoi?
Parce que il y a des jeunes cons qui ne jurent que par Starbucks, que par des sandwichs Donna. Donc il faut lutter contre les nouvelles générations qui ne savent pas ce que c'est que se mettre du gras sur la chemise et sur la commissure des lèvres.
Les jeunes sont des cons, quoi.
Bah, c'est pour ça qu'on les appelle les jeunes cons.
Mais oui, Sébastien, et c'est un petit peu le Alain Finkielkraut de l'œuf maillot. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut garder ce savoir-faire de l'œuf. Hein. Faut garder les milliers de poussins broyés tous les ans, les poules en cage. On devrait classer la saloperie des humains au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça, et évidemment, j'y tiens, nos jeux de mots.
Quand on dit quelque chose est évident, on dit œuf course. C'est un petit peu notre grande blague.
Ça, c'est la blague dans le milieu de l'œuf maillot. Quoi.
Oui.
Ouais, œuf course, ah, bien évidemment. Évidemment. Alors, le gagnant, ouais, oui, bah, j'avais promis, hein, y a du niveau. Le gagnant, quand même, Bouillon Pigalle et son chef Clément Chicard. Bravo à lui et son équipe. Les humains, comme vous pouvez le constater, aiment toujours autant la compétition pour tout et n'importe quoi. Bref, rien de neuf. Neuf maillots, évidemment.
Merci Guillaume Meurice pour ce dévouement, ces enquêtes, ces révélations.
C'est vrai que c'était tendu. Hein, c'était tendu.
Il y avait beaucoup de journalistes à couvrir le...
Alors, il y en avait... Alors, je vous promets, il y avait Quotidien, évidemment. Le pire, c'est qu'il y avait l'AFP. Ah, et ça, je me suis dit, c'est là où je me suis dit, je suis au bon endroit, j'ai vu l'AFP directement.
Très très bien.
Et BFM, parce que BFM, ils sont à peu près partout.
Vous êtes sur France Inter, quel bon goût vous avez. Bruno Patino est en notre compagnie. Abordons cet autre thème, car avec Facebook, c'est toujours les autres qui sont manipulés. C'est jamais nous. Parce que nous, on connaît les travers des réseaux, donc on ne tombe pas dedans, bien sûr. Un chercheur qui a étudié les dynamiques sociales à l'œuvre sur Internet montre cette contradiction psychologique. Si on reste connecté, c'est qu'on s'estime à l'abri. Puis ce serait tellement cruel de se déconnecter, ça supprimerait d'un coup tous nos amis.
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne bat pas comme le leur. Vous entendez absolument pas. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils nous l'ont pas pardonné. Ils voulaient que je sois comme eux. Que je dise comme eux. Belle jeunesse, vraiment. Mais quelle prodigieuse destinée. Être seul. N'être aimé de personne. Être libre.
Les enfants du paradis. On vient d'entendre Marcel Héran et qui répond à Arletty, qu'on n'a pas entendu dans l'extrait, mais de Marcel Carnet, un film à voir sur Arte bientôt, certainement.
Forcément.
Alors ce sujet sur lequel Juliette Arnaud a mis la main, tiens d'ailleurs, qui est relayé par Slate, fait penser à un passage de votre ouvrage. C'est-à-dire on pense toujours que c'est les autres qui sont faibles, c'est les autres sur Facebook qui risquent de tomber dans le panneau et bien sûr pas nous qui sont armés pour ça. Vous faites allusion notamment à la fameuse émission de radio La guerre des mondes d'Orson Welles aux États-Unis en 1938. Ou est-ce qu'il y a eu tant de panique que ça? Est-ce que finalement c'est pas ceux qui craignent pour les autres qu'il se soit passé quelque chose? Je vous laisse relier les deux thèmes.
En fait, on connaît l'histoire. Donc Orson Welles avait, en lisant La guerre des mondes, l'avait en fait mise en scène comme un journal radiophonique de l'époque. Et 24 heures après, le New York Times a titré qu'il y avait eu des paniques incroyables dans le New Jersey, à New York ou ailleurs, c'est-à-dire des gens qui quittaient leur domicile, absolument persuadés que les extraterrestres étaient en train d'envahir les États-Unis. Et en fait, quand un chercheur s'est penché sur l'ensemble des courriers qu'avait reçu la station à l'époque, il s'est rendu compte qu'en fait, la crédulité, c'est les autres. C'est-à-dire que les gens qui étaient le plus furieux contre Orson Welles, c'était les gens qui avaient failli y croire, mais n'y avaient pas cru. Et donc, ils partaient du principe que comme ils avaient failli eux-mêmes failli y croire, les autres y avaient forcément cru. Et donc, c'est cette ce que vous mentionniez tout à l'heure avec Facebook, c'est-à-dire cette conviction que les autres sont plus crédules que nous et qu'il faut les protéger de ceux contre quoi on se protège. Mmh. Et souvent, quand on aborde le fameux problème des fake news, les fake news existent, mais je pense qu'on oublie toujours d'évoquer le principe de la crédulité. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les fausses nouvelles circulent, mais est-ce que les gens y croient forcément? On prend pour acquis que les gens croient ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on voit ce en quoi on croit. Les biais de confirmation nous permettent de voir toujours ce en quoi on croit. Et en tout cas, je pense qu'on toujours, on part du principe que la crédulité est chez les autres et pas chez soi. Mmh. Et en fait, les systèmes algorithmiques nous traitent tous de la même façon.
Vous dites, on pense toujours qu'il faut donc protéger l'autre qui est crédule. Ça ouvre la voie au contrôle des médias. On sait que Emmanuel Macron tient à ce que les fake news, etc., que ce soit légiféré. Est-ce que ça risque pas d'ouvrir la porte et est-ce à tort finalement, puisque...
moi, je crois. Enfin, si vous voulez, c'est que on s'attarde toujours sur quels sont les messages qui circulent et qui est présent sur ces réseaux. Et on oublie toujours la façon dont c'est distribué. Et ce que j'essaie de dire dans ce petit livre, c'est que la façon dont c'est distribué, c'est-à-dire la façon dont l'algorithme organise la distribution de ces contenus justement pour attirer le plus possible notre attention, c'est ça qui provoque les biais. Et comme par hasard, c'est vraiment une phrase de complotiste, je devrais pas dire ça, mais je tombe moi-même dans le piège que je dénonce. Mais
par hasard, la CIA.
Voilà, évidemment, et les extraterrestres aussi, et les Illuminati qu'on avait oubliés. Non, mais en réalité, si vous voulez, ce thème-là est central, c'est-à-dire que évidemment, c'est un médias qui normalement mélangent l'information, la conversation et l'influence, donc mélangent de tout. Mmh. et prétendre à un moment donné séparer le bon grain de l'ivraie, telle chose ou telle autre, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de limiter une expression ou autre. La loi déjà prévoit que pour les contenus haineux, qu'ils soient d'un endroit ou un autre, on peut être poursuivi. Et donc ce que je crois, c'est qu'il faut plutôt voir comment à un moment donné sont distribués, sont hiérarchisés les contenus. Ce que j'essaye de raconter dans ce petit livre, c'est que oui, sur certaines plateformes, plus ça touche à vos émotions, plus vous êtes mis en contact avec ça. Et que donc, la réaction est toujours privilégiée à la réflexion dans un certain nombre de mécanismes. Et que c'est cette distribution-là qu'il faut regarder.
Et vous proposez des pistes, des solutions, en disant notamment que les médias publics ont d'ailleurs en ce domaine un rôle essentiel à jouer, n'étant pas financés par leurs retombées publicitaires, et ils doivent investir les plateformes en y apportant un message différent, vérifié, qui permette une pause dans les logiques d'attention pure. T'as entendu Franck Riester ? Sybille Veil ! Lis La civilisation du poisson rouge, paru chez Grasset.
C'est Patino qui l'a dit. On l'appelle le coquinou.
Juliette Arnaud, je vous laisse le micro.
Alors, outre son sourire joyeux, il y a deux choses que je n'oublierai pas de Michel Serres. C'est qu'il disait que c'était pas mieux avant et que pour parler des jeunes gens nés avec un téléphone dans les doigts, il avait préféré poussette à pousset, le féminin au masculin. Voilà. J'ai parlé pendant 9 secondes et là, potentiellement, pac ! Vous avez décroché. Au-delà de 9 secondes, il faut un nouveau signal pour capter notre attention. C'est pas moi qui le dis, c'est Google. Alors, à peine plus que le poisson rouge, l'animal le plus familier des foyers français, vite, vite, Juju, trouve quelque chose, capte l'attention, j'ai ! Le nom scientifique du poisson rouge, qui est dans le titre du bouquin de Bruno Patino, c'est cyprin doré. Cyprin, comme cyprine, la sécrétion vaginale, signe physique du désir féminin.
Là, on est attentif.
Là,
on a capté.
Sauf que, début, je vous ai induit en erreur, cyprin et cyprine ne viennent pas du tout du même mot latin. Ça vient soit de Vénus, soit du cuivre, mais je m'en fous. J'ai capté votre attention avec de la fesse, du spectaculaire. J'ai fait mon petit GAFAM de poche. Alors, on va en revenir maintenant que vous êtes capté avec la glaire... des ovaires. On va en revenir au cyprin doré, qui pourrait mesurer 30 cm, vivre 30 ans, et ne devrait en aucun cas vivre dans un bocal rond, mais dans un aquarium d'au moins 100 litres, sinon il est soumis à un stress permanent et meurt par compression de ses organes. En voilà du projet de vie qui fait rêver, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi la lecture de ce livre, La civilisation du poisson rouge, me paraît indispensable. Savoir que vous êtes un poisson rouge aux yeux des GAFAM et comment et à cause de qui vous l'êtes devenu. Comment vous qui pensiez avoir comme animal totem, le noble cheval, l'élégant jaguar ou le puissant bison, vous qui ralliez d'être rat en signe astrologique chinois, eh ben non, c'est pire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a tous le même. C'est poisson rouge, tout petit, tout vulnérable, l'incarnation même de la servitude, le web, est devenu le terrain d'une science, la captologie. Ceux qui la pratiquent ont à cœur, grâce aux neurosciences et aux données personnelles qu'on cède sans sourciller à Google, de capter notre attention de plus en plus amoindrie, de plus en plus velléitaire, grâce à des trucs dont l'industrie du jeu raffole pour nous manipuler. Parce que oui, avant le poisson rouge de Google, qui était déjà pas très très drôle, il y avait la souris de Skinner. Sexy, la souris de Skinner. Souris de labo, bien sûr. Non, on ne rend pas dingue les animaux seulement pour le vaccin contre la rage, mais aussi pour aider l'industrie du jeu, sur qui on valida le principe de récompense aléatoire qui démultiplie l'envoi de la molécule du plaisir, la dopamine, et crée donc l'addiction. Bon pour l'industrie du jeu, excellent pour le web. Oui, d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est des poissons rouges ? Alors qu'au début du Web.0, la fable originelle était la suivante, l'égalité totale associée à la liberté absolue pour atteindre la sagesse universelle. C'est beau comme un rêve hippie gonflé au LSD, dégonflé sauvagement par des mecs en hoodies et t-shirts Nomcore. Et je vous entends, monsieur Patino, je lis votre vœu pieux et je vous cite, il est temps de reprendre le combat pour un réseau mondial tourné vers l'échange et le partage. Sauf que quand même... Vous le saviez bien que c'est le propre de l'homme que de dégueulasser les trucs les plus jolis, les plus porteurs d'espoir. Aimez-vous les uns les autres, ça a produit l'Inquisition, et Einstein, la bombe atomique, et la plus belle des saisons, le glorieux été, est devenue la saison des pentacours. Alors la question, surtout à mon sens, c'est comment ne pas l'avoir vu venir. Maintenant qu'on y est, la première étape, c'est de savoir qu'on y est. Et ce livre, mieux qu'un buvard de LSD, nous permet d'accéder à ce niveau de conscience. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnaud. La civilisation du poisson rouge, Bruno Patino, publié chez Grasset, petit traité de défense intellectuelle aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Patineau?
C'était un résumé parfait.
Il a rien écouté, il était sur son smartphone. Il jouait à Candy Crush.
On est des poissons rouges, et puis vous expliquez aussi qui est derrière, qui sont ceux qui sont chargés de cibler la publicité, que parmi les fondateurs de Facebook, certains mettent leurs enfants dans des écoles exactement, ouais. Sans écran, sans wifi, etc. Et ça en dit long sur... sur un petit poisson rouge que nous
ça
sommes.
Ça en dit enlever les téléphones des mains des enfants, merde.
Enlever les mains des enfants. Vous écoutez France Inter, on est en compagnie de Bruno Patineau. Profitons-en, car je sais que vous consultez de façon compulsive votre smartphone, on va y venir. Regardez, un Français sur trois utilise son portable ou sa tablette à table. Et c'est valable en famille, entre amis, et dans 30% des cas chez les amoureux. Au-delà de la gêne occasionnée, on mange plus, on mange mal, on digère mal, et on finit tout boudiné devant son écran, Bruno, je vous le dis, moi.
Messieurs, vous avez invité votre famille au restaurant et puis voilà, tout le monde est sur son portable. Alors, profitez-en, buvez.
Allez, on y va, les connards.
C'était un message de l'AVGADPZ, l'association des viticulteurs grolandais contre l'abus de 2.0.
Ah bah oui, pourquoi pas Grolande, bien sûr, moustique, kerverne, délépine. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France, justement aujourd'hui. Alors Bruno Patineau, ce qui se passe, c'est que le marché de l'attention, il doit conquérir tous les territoires, jusque dans notre lit et à table, c'est ça l'enjeu?
En fait, il conquiert le temps qu'on occupe déjà à faire autre chose. Et donc forcément, la qualité du temps qu'on consacrait à autre chose diminue, puisqu'on fait plusieurs choses en même temps. Donc la statistique qui est à un moment donné mentionnée dans le livre, comme quoi nos journées font 30 heures, ou voire un peu plus, c'est simplement quand on met bout à bout toutes nos activités, et donc les 6 heures à faire autre chose en même temps. Et évidemment, ça pose pas trop de problèmes au début quand on pense que c'est du temps inutile, du temps de transport ou autre, même si souvent c'était du temps qu'on pouvait consacrer à la lecture ou à autre chose.
Vous dites les transports et les files d'attente, ça a été le premier cap, mais aujourd'hui, ça va jusqu'au repos.
Les toilettes aussi, c'est chouette. Enfin,
merci pour ce témoignage.
C'est un témoignage intéressant et très utile pour la version poche du livre qui paraîtra.
Si je peux aider.
Bien sûr. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ces outils de socialisation, en fait, finissent par s'attaquer à notre temps de sociabilité première, quoi.
Et vous,
le temps du couple, de l'amitié.
Et vous, Bruno Patineau, vous l'avez sorti au moins 10 fois depuis le début.
Je l'ai remis parce que vous m'avez regardé en faisant les gros yeux.
Ouais. Oui, je fais les gros yeux. Par exemple, si on va déjeuner ensemble, vous allez être tenté de... Oui, bah non, j'ai pas invité à le déjeuner non plus.
Rappelons un chat, un chat.
Oui, quand même. Mais vous pouvez faire un Snapchat avec une photo de chien, les deux.
C'est moi qui l'inviterai quand même dans ces cas-là.
Bien sûr. Mais alors, vous allez sortir votre smartphone?
Non, je vais pas sortir mon smartphone. Je vais sans doute avoir envie de le faire.
Non, mais je vais rigoler. Non.
S'il le sort, considérez que c'est perdu. On va dire comme ça.
C'est ça, c'est compulsif.
Oui, c'est
vous en êtes conscient, mais... Conscient, mais c'est compulsif.
C'est compulsif. C'est
ça. Vous admettez la gêne, mais vous reconnaissez l'addiction.
À l'addiction, elle est là, oui. Mais je pense que, en fait, dans la réalité, je pense qu'on a tous ce ressenti, alors plus ou moins.
Mais le problème, c'est que les gens sont chiants. S'ils n'étaient pas chiants, on n'aurait pas.
Quels gens? C'est qui les gens?
Les gens avec qui on cohabite. Ils sont moins intéressants que ce qui se passe sur un smartphone.
Ah, ça, c'est un autre problème. Oui. Fréquenter qui vous voulez, Guillaume Meurice.
Ben c'est vous.
Alors, soit vous me donnez le nom.
Allez, il faut qu'on passe au sketch, Constance.
Juste, là où j'habite, ça capte pas.
Ça résout pas mal. Bruno Patineau, en fin d'émission, propose un sketch à l'invité qui joue avec nous. Et vous avez la chance d'être Bruno Patineau dans le sketch assez cool. Charles Consigny. À quitter, on n'est pas couché. L'émission de Laurent Ruquier, il faut donc retrouver un remplaçant de droite. Catherine Barma est dans tous ses états, elle fait appel à vous. Catherine Barma, c'est Charline. Vous êtes Bruno Patineau. Et puis, il y a 2-3 candidats qui viendront se présenter.
Bon, écoute, Patineau, mon coco, là, faut qu'on trouve un remplaçant à l'autre mou du genou, là.
Vous parlez de Charles Consigny?
Ouais, c'est ça, voilà. Et comme toi, t'as bouffé un petit peu à tous les râteliers, j'ai besoin d'avoir ton regard sur ma future recrue.
Pas de problème.
Bon, allez, faites entrer premier candidat.
Salut, quoi, c'est du cul?
Ah, bah voilà, Elisabeth Lévy.
Ouais, c'est ça. Dites-moi, Catherine, qu'est-ce qu'il fout là, le bolcho? C'est moi le bolcho ?
Ah ouais, t'étais bien dialogue de radio de gauchiste là, France Musique.
Pas tout à fait, enfin presque quoi.
Ah bah tiens, j'en ai une bien bonne pour toi. Tu sais comment on appelle Radio France avec mon copain Pascal Praud ?
Non.
Idiot France.
Oui, bon, c'est drôle. Et qu'est-ce que vous pensez apporter à l'émission ?
Bah déjà pas les jeux de mots, hein. Eh ben la liberté de penser.
Ah oui, vous êtes sans doute une femme libre.
Oui, je suis libre de penser que la Terre est plate, je suis libre de penser que le Dahu existe, et je suis libre de penser que le whisky ne saoule pas.
Bien, et bien écoutez, on vous rappellera.
Ouais, très bien, allez, bon, on passe au suivant.
Oui, bonjour, alors. Bonjour.
Ah, mais monsieur Dupont-Aignan, que faites-vous ?
Je viens pour obtenir un peu d'espace médiatique, car j'estime qu'on ne m'en donne pas assez.
Bah, et ici, c'est le casting pour être chroniqueur, on n'est pas couché.
Eh bien voilà, une fois de plus sur le service public, on m'empêche de m'exprimer. Eh bien vous savez quoi, j'en parlerai de cette censure demain matin sur France 4 dans les 4 vérités, sur France 2 après-demain, et puis sur France 5 dans C'est à vous, et vendredi dans le soir 3. Je vais vous dire.
Ouais. Bon, on va peut-être faire rentrer un dernier candidat.
Taisez-vous !
Monsieur Finkielkraut, mais on n'a pas encore parlé.
Taisez-vous, islamiste, gauchiste, féministe, pompiste.
Pompiste ?
Oui, c'est très bien. Tant qu'il parle fort, c'est bon pour l'audience.
Gna, pauvre conne.
Ah, mais je crois qu'on tient notre gagnant, là, c'est bon.
Mais vous êtes sûr, il vous a quand même insulté, il va être odieux.
Oui, mais vous savez, nos téléspectateurs sont comme des poissons rouges, ils ont une attention de 8 secondes, alors le clash, c'est notre seul moyen de les garder. Allez. Merci Bruno Patineau.
Merci, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir sur Arte, mais on va essayer de revenir au travail.
On vous laisse repartir vers Arte. Mais voilà, on conseille chaleureusement votre ouvrage, La civilisation du poisson rouge, le petit traité sur le marché de l'attention, paru chez Grasset. Merci à tous et à toutes. Merci Constance, Juliette Arnaud, Alex et Guillaume. On va se retrouver demain avec le réalisateur Thomas Lilti. Et voici le mot de la fin, qu'on laisse aux amateurs de jeux de mots.
Quand on dit quelque chose est évident, on dit « of course ». C'est un petit peu notre grande blague.
Ça, c'est la blague dans le milieu de l'œuf maillot.
Oui.